Bienvenue pour la suite de notre méditation sur l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous terminions la dernière émission sur cette espèce de progression qui va de découverte en découverte. D'abord la découverte du spirituel, d'une réalité spirituelle et qui est là, propre à tous les êtres humains, puisque... Le simple fait de donner une sépulture à quelqu'un, et cela remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années, est bien la preuve qu'il y a au moins une quête ou un pressentiment d'une réalité spirituelle qui va petit à petit au cours de l'histoire, de manière progressive, devenir la découverte d'un Dieu, puis de découvrir un Dieu qui parle et un Dieu qui crée une Église vivante et bien évidemment... À ce moment-là va se poser la question majeure, celle qui, quelquefois d'ailleurs, pose le plus de problèmes à certaines personnes qui sont en recherche, qui ne se retrouvent pas dans la foi chrétienne, c'est la découverte de la croix et de la résurrection, c'est-à-dire le mystère du Christ. En effet, le Christ étant fils de Dieu, rationnellement, Pourquoi la souffrance? Pourquoi la crucifixion? Pourquoi la mort? Alors que Dieu étant tout puissant, il pourrait parfaitement sauver le monde d'une chiquenaude sans ce mystère, justement, qui est le mystère du Christ. La découverte de la croix se situe au cœur du parcours chrétien. Mais elle ne peut pas être détachée de la résurrection et du mystère du Christ qui se déploie, elle, dans les sacrements de l'Église. On ne peut pas séparer la croix du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Pourquoi ? Parce que toute découverte du mystère de l'Église et toute découverte de la dynamique et toute découverte de l'efficacité, en quelque sorte, de l'efficacité de cette grâce, passe automatiquement par les sacrements. Et le cœur du système sacramentel, le cœur de notre foi, ça n'est pas la fête des saints, l'Avent, c'est tout simplement le cœur de la semaine sainte, le Triduum pascal, où l'on commence avec la superbe liturgie de la veillée pascale, où on commence par la lecture de la Genève, de la Genèse, pour arriver à la découverte du tombeau vide et à l'annonce de la résurrection au matin de Pâques. Et c'est le seul moyen de... conserver, je dirais, l'unité dynamique du mystère. Il y a simplement deux choses que je voudrais dire là-dessus, c'est cette relation entre la croix et la gloire. Titre d'un célèbre ouvrage, d'ailleurs, d'un célèbre théologien allemand, et la centralité toujours actuelle de la croix dans la vie chrétienne. La croix et la gloire sans confusion, sans séparation, mais liés. Croix, résurrection, mystère chrétien. La croix dans la vie chrétienne, elle existe, mais de manière très édulcorée. Souvent, les personnes d'une génération qui avait... même d'après le Concile, mais qui avait un peu connu la spiritualité du début du XXe siècle et aussi du XIXe siècle, ceux-là se souviennent certainement de « il faut porter sa croix ». On doit porter sa croix, puisque la vie est une vallée de larmes, et que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, et que chaque petit morceau de souffrance acceptée et offerte, eh bien, c'est un petit morceau de souffrance enlevé au Christ souffrant sur la croix. C'est à la fois enfantin et prétentieux. À la fois enfantin et prétentieux parce que il n'y a pas que il n'y a pas une succession, il n'y a pas la croix d'abord pour la gloire ensuite, il y a la gloire est toujours présente dans la croix. D'où une espèce de sérénité absolue, si on en est certain. Je m'explique. Il y a un passage d'un verset de psaume qui dit « Et votre tristesse se changera en joie ». Je crois l'avoir d'ailleurs déjà commenté sur ces ondes, et j'y reviens. Il faut avoir touché le fond de la tristesse, le fond du désespoir, le fond de l'abandon, en quelque sorte, et de la solitude, pour, quand on prend conscience que il n'y a plus rien de possible, il n'y a plus rien d'humainement possible, il n'y a même plus d'humanité puisqu'il peut y avoir la mort, alors, il n'y a plus qu'une solution, c'est la vie éternelle. Je ne peux pas évacuer cette question d'un revers de main. Ça n'est que quand on a touché le fond de la solitude que l'on découvre qu'il y a une possibilité de relation, d'amour ou autre. Parce que tant qu'on n'a pas touché le fond et la finitude de notre condition humaine, eh bien, il y a autant de distractions qui nous apparaissent comme autant de fausses finalités. On va aimer les arts, la littérature, la musique, la bonne chère, son métier, toutes sortes de choses qui vont nous, je ne dis pas nous détacher, mais nous distraire en quelque sorte de quelque chose d'absolument fondamental. Ça n'est que lorsque nous n'avons plus aucun secours à attendre de personne, ça n'est que là que nous pouvons, à ce moment-là, rebondir dans le rendre grâce. Prenons un exemple commun à tout être humain. Ce n'est que lorsqu'on a touché le fond de la perte de l'être aimé par la mort et que l'on s'aperçoit que ou bien tout s'arrête là, avec tout ce que cela peut entraîner de culpabilité, de désespoir, ça ne sera plus jamais comme avant, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, peu importe. Et puis, cette idée de dire, mais cette vie que j'ai vécue avec la personne que j'ai aimée, elle garde sa valeur. Elle garde sa valeur parce qu'elle m'a façonné et que donc, au lieu de rendre équivalent les quelques instants de la mort et toute une vie d'amour, eh bien, à ce moment-là, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort parce que cette vie d'amour partagé, elle me façonne encore aujourd'hui. Elle me donne le courage de rendre grâce pour ce que j'ai reçu, ce qui n'enlève pas la douleur de la séparation, mais ce qui permet effectivement de rebondir. Et de dire, oui, la personne que j'aimais, ma mère, mon père, ma femme, mon époux, mon fils, est mort, mais tant qu'il a été vivant, il m'a donné tant d'amour, tant de joie, que cela ne peut pas disparaître. Et c'est là que les sociologues voient justement, de manière naturelle, l'apparition de l'humanité chez les premiers hommes. Les animaux n'enterrent pas leurs cadavres. Il n'y a pas de sépulture, à part quelques rêves sur le cimetière des éléphants. Mais, en revanche, dès qu'il y a un rite de sépulture, on sait qu'il y a humanité. Parce que ce rite, il naît de quoi ? Il naît de la constatation de la mort, il naît de la constatation que tout semble être fini, et que cela n'est pas possible. Donc, la sépulture va créer la culture parce qu'elle veut dire aux autres, aidez-moi, je ne peux pas m'en sortir tout seul. La sépulture est d'abord un acte collectif. On se rassemble pour faire corps autour de le corps que l'on enterre. Et ensuite, elle est un deuxième acte collectif, c'est-à-dire qu'elle renvoie vers un futur inconnu. Ce que je fais là, c'est aussi, consciemment ou plus ou moins inconsciemment, pour que d'autres le fassent quand ça sera mon tour d'être là. Pour que d'autres m'enterrent le jour où je serai mort et conservent mon souvenir. Et là, on a la base des premiers cultes, des premières religions, le culte des ancêtres, qui est à peu près universel dans l'humanité. Donc, non seulement la sépulture crée le lien social, mais elle crée la culture. Et quand on applique cela à la croix, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, je ne vois, je ne ressens que la souffrance, mais dans cette souffrance, il y a la gloire. Il y a la gloire de la croix. Et cette exaltation, cette élévation, justement, il a été élevé sur la croix, dit-on, on la trouve à la fois de manière poétique dans la liturgie, mais on la trouve aussi dans la Bible. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et la première élévation, c'est lorsque le patibulum, c'est-à-dire la partie horizontale de la croix, hisse sur la partie verticale un corps souffrant, sanglant, sale, déchiqueté. Mais il y a ce mouvement d'élévation, et c'est cela qui est extrêmement important. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et je vous rappelle aussi le passage du serpent de bronze. Ceux qui regarderont le serpent ne pourront pas être mordus, ou les morsures ne leur feront aucun mal. Donc, on est là, devant ce peuple de Dieu qui, au sein de l'histoire de l'humanité, se purifie, qui fera finalement triompher le tout, c'est-à-dire le Christ et sa croix. Il faut donc considérer le temps de l'Église que nous vivons actuellement, non seulement comme un aboutissement et un exaucement, mais comme une préparation et comme une promesse. Parce que cette Église de la Nouvelle Alliance, si elle est le corps du Christ, doit passer par un développement marqué par la croix et les divisions avant d'atteindre la gloire du royaume. Un peu comme s'il faut passer par... parce que nous sommes vivants, nous devons passer par la mort pour accéder à la vie. Parce que si nous ne mourons pas, alors nous ne sommes pas des vivants. On est ce qu'on veut, on est des cyborgs, on est des rêves, on est tout ce qu'on voudra. Mais la définition même du vivant, c'est que le vivant naît, croît, vieillit, meurt. Et quand je parle de vie éternelle, malgré l'apparente contradiction entre les deux termes, puisqu'une vie par définition n'est pas éternelle, c'est qu'il y a bien quelque chose comme l'idée d'une éternité dans la notion même de vie. Et pourquoi la vie est-elle aussi attirante, aussi passionnante, aussi intéressante? Parce que la vie est un progrès constant, est un cheminement constant au cours duquel je me fabrique moi-même cette réalité que je suis unique et éternellement unique. Je prépare donc mon éternité par une espèce de pierre éternelle qui est mon histoire et qui ne peut être que la mienne et pas celle d'un autre. Il y a donc, face à cela, il y a bien évidemment dans notre monde aujourd'hui, et chez les chrétiens en particulier, il y a des optimistes. Évidemment, on ne va pas parler de la croix, ça va traumatiser les gens, et donc on ne considère que la gloire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas évacuer que cette religion qui est la nôtre, repose sur un acte concret, unique, mais dont la portée embrasse toute l'histoire. Elle n'est pas une doctrine, elle n'est pas une philosophie, elle est un fait, elle est une action, et non pas une action du passé, mais une action du présent, où le passé se retrouve et où l'avenir s'approche. La nuit où il fut livré, il prit le pain, prenez et mangez-en tous, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. C'est en cela que d'ailleurs, ce fait renferme un mystère, un sacrement, un signe de foi, car elle affirme que nous faisons nôtre aujourd'hui l'action qu'un autre a accomplie autrefois et dont nous ne verrons les fruits en nous que plus tard. Et c'est pour cela que dans la liturgie, après les paroles de la consécration, nous proclamons « Il est grand le mystère de la foi », c'est-à-dire ce mysterium, ce sacramentum, ce signum, ce signe visible d'une réalité invisible qui est effectivement cette Église, corps du Christ, qui me nourrit et qui me fait participer donc à sa nature même. Et une catéchèse, j'employais le mot dans la précédente émission, mais une initiation qui ne tiendrait pas compte de cela et qui ne s'ouvrirait pas au mystère vivant ne serait pas réellement chrétienne. On parle souvent des théologiens. Les théologiens, la théologie, c'est d'abord, au fond, un discours. Un discours sur Dieu. Prétendre avoir un discours sur Dieu, alors que Dieu est absolument inconnaissable, puisqu'il est l'au-delà de tout, semble déjà curieux. Mais il y a une tradition, bien sûr, de théologie apophatique. C'est-à-dire, de Dieu, on ne peut rien dire. Bon, que l'on retrouve chez certains mystiques rhénans. Mais il y a aussi une théologie positive, qui est d'une grande tradition occidentale, où, effectivement, le métier, en quelque sorte, du théologien, parce qu'il y a un métier qui se traduit généralement par de l'écriture et par de la parole, ce qui n'est pas innocent, puisque Dieu se révèle à nous dans son verbe, sa parole, et dans cette écriture, dans cette écriture sainte, dans cette Bible qui est le livre. Mais le métier du théologien ne peut pas rester livresque. C'est comme si je prends la Bible et je dis que voilà, là j'ai tout. Non, la Bible est une révélation progressive de la parole de Dieu. Si je vais voir dans la Bible qu'on me parle de Léviathan ou qu'on qualifie un lièvre de ruminant, mais ça n'a strictement rien à voir. La Bible n'est pas un traité de biologie. La Bible n'est pas un traité d'archéologie, ni même de paléonto-archéologie. La Bible est une parole vivante qui part d'un passé pour renvoyer systématiquement vers un avenir. Et le métier de théologien ne peut donc pas rester livresque. Il ne peut pas décrire le mystère comme un système logique. Il s'agit d'accueillir le mystère, d'abord, et puis d'essayer de le comprendre. De le comprendre avec des moyens qui ne sont que des moyens humains, qui ne sont en aucun cas obligatoires. Après, certains sont plus efficaces que d'autres. Bon, il est évident que toute une philosophie grecque et aristotélicienne, et quelquefois aussi platonicienne, permet d'éclaircir le mystère, permet de mieux saisir ce que l'on veut dire. L'analogie aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faille d'abord être persuadé de la vérité de l'analogie ou de la supériorité de tel ou tel système philosophique pour avoir accès au mystère, parce que le mystère, justement, le dépasse. Cela suppose que le langage de l'écriture et le langage de la tradition, dans lequel cet acte de révélation divine a été commis, doit toujours être pris comme en étant conscient qu'il est imparfait et que cette imperfection n'est pas due à une faiblesse de notre intelligence, bien évidemment, mais ça n'est pas la cause réelle, qu'elle n'est pas due à un manque de connaissances ou une ignorance de choses cachées, pas dans une gnose ou réservée à de seuls initiés. Non, elle est tout simplement, inadéquate. Pourquoi ? Parce que c'est puisque c'est inadéquat tant que dure l'histoire, tant que nous sommes dans l'espace-temps, le mystère est inadéquat puisqu'il se situe hors de l'espace-temps. Donc il y a toujours cette espèce de, comment dire, de zone un peu difficile, un peu comme, un peu, j'aime beaucoup cette image d'un miroir. Le miroir, c'est à la fois la plus extraordinaire ressemblance avec la personne qui est devant le miroir, mais c'est en même temps l'opposition absolue, puisque le miroir est l'image inversée. Et que, en fait, on se rend compte, et c'est ce qu'a admirablement rendu Michel-Ange dans la création de l'homme, dans la Sixtine, où Dieu tend la main droite à Adam, qui tend la main gauche, et ça n'est que lorsqu'on prend conscience que ça n'est pas possible, parce qu'on ne tend pas la main gauche à quelqu'un qui est son supérieur, qu'on se dit, mais quand est-ce qu'il peut y avoir deux mains qui se touchent ? Eh bien, quand c'est soit les mains de la même personne, ce qui n'est manifestement pas le cas, ou alors quand je suis dans le regard, dans le miroir, et que je contemple mon image. Dieu contemple l'image de Dieu qu'il a créée, son reflet dans le miroir, mais ce reflet est à la fois le plus fidèle, mais peut être le plus infidèle, puisque il est inversé. L'homme peut être image de Dieu, ou détruire en lui l'image de Dieu. Et ce qui fait la différence, c'est l'épaisseur du miroir, c'est-à-dire, très exactement, l'espace du verre et celui de la liberté de l'homme. Donc, c'est dans cette dynamique que nous rentrons dans ce qu'on va appeler cette économie, ce développement, cette progression divine où l'Église nous introduit. La croix, le mystère de la croix, est à l'origine de tous les sacrements, et notamment de l'Eucharistie. Et en fait, on se retrouve, en relisant la Bible, comme une espèce de continuité constante avec Israël, mais avec une purification de la foi d'Israël à travers la révélation humaine, qui fait que c'est une continuité où il y a des discontinuités, parce qu'il y a des moments où des choses qui ne sont plus essentielles, eh bien, sont abandonnées. Comme je disais, regardons les formulations de la foi. Dans une civilisation romaine où la grande question est l'avenir, la situation des morts, eh bien, les chrétiens se sont obligés, pour être compris, de dire que, dans le symbole des apôtres, il est descendu aux enfers. Ce qui ne veut pas dire que l'on croit aux enfers, ce qui ne veut pas dire non plus très bien qu'on avait l'emploi du temps du Christ et son agenda la nuit du samedi saint au dimanche, mais parce qu'il fallait montrer que, justement, cette Église englobait aussi tous ceux qui étaient morts avant la naissance du Christ. Qu'il y avait là quelque chose de beaucoup plus fort, et que, après tout, si la culture des gens parlait des enfers, eh bien, il fallait aussi intégrer le Christ, en quelque sorte, dans cette culture, sous peine de ne pas être compris. Et c'est en cela que nous sommes plus qu'une religion du livre, effectivement, comme j'aime à le dire, une religion de la parole. Parce qu'il n'y a que la parole vivante qui peut, justement, à partir d'une réalité passée, historique, faire le pont pour nous projeter vers une réalité éternelle, alors que toute révélation historique est, par définition, temporelle, puisque elle s'inscrit dans une histoire qui a un commencement et qui aura une fin. Voilà en gros ce à quoi pourrait nous ouvrir cette méditation sur sur le mystère de l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et il y a là quelque chose de tout à fait, je dirais, tout à fait passionnant, parce que ça nous permet à la fois non seulement de mieux comprendre ces formulations que nous entendons à peu près constamment dans la catéchèse, dans les discussions, que nous retrouvons dans la liturgie, que nous retrouvons aussi dans certaines conférences ou dans une presse catholique, mais cela nous permet de comprendre mieux, me semble-t-il, combien cette problématique n'est pas en fait une simple question de théologien, de philosophe ou de journaliste, mais qu'elle est au cœur de la vie même de l'Église, et donc, a priori, au cœur de notre vie. Merci de votre attention.